Voilà. Vous aimez changer de style? Non? Vous aimez le style de prédication, de message, tout ça? Ouais. Ce qu'il y en a, vous savez, difficile, hein? Même dans certaines églises, si quelqu'un prend votre chaise, il y a les noms dessus. Hein? Ah oui, il y a les noms dessus, hein, gravés dessus. Hein? Ah oui, oui. Surtout pas toucher. Hein? Voilà. C'est très statique. Hein? Voilà. Ouais. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de ce que tu nous as laissé ta parole qui nous conduit, qui nous dirige. Et nous voulons vraiment te laisser toute la place, la place dans nos cœurs pour que nous puissions la recevoir et la mettre en pratique. Te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous me connaissez un peu, j'aime bien l'interaction. Je voudrais vous demander quel est le monsieur qui est sur la photo que vous voyez là, sur l'écran. Elle est visible du fond? On voit la photo? Voilà. Alors, j'écoute vos réponses. Alors, je vais jouer un peu les devinettes. Comme hier soir au mariage, celui qui ont gagné, qui ont donné la bonne réponse. Est-ce que c'est Moïse? Ah, bon. Déjà un bon point. Vous gagnez un point. Est-ce que c'est David? Oh, pourquoi pas? Ah, c'est un Anglais. Qui dit mieux? Un Coréen? Non, pas Coréen. Un Américain, oui. C'est ça, c'est un Américain, voilà. Vous chauffez. Oui, un pasteur? Pardon? C'est pas Billy Graham?
Non.
Pas tout à fait, non? Alors, allez plus loin, là, dans les recherches. Alors, je peux vous dire tout de suite que vous écoutez et vous entendez beaucoup de choses de lui, hein, sur Internet, sur les livres de... Enfin, tous les livres, comment ça s'appelle, méditation, adoration, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, hein, que vous avez de lui. Hein, ça, vous le connaissez très bien, sauf que vous ne regardez peut-être pas au bout de ce qui est écrit le nom de celui qui l'a fait. Quoi. Alors, j'écoute... Pardon? Les initiales. Je vous le donnerai tout à l'heure. Je vous le donnerai tout à l'heure. Et les dates de son existence? Non, mais pas la date, mais le siècle. 20e, oui. Ouais, 20e siècle. Oui, il est mort, oui. Alors, j'ai facilité un peu la recherche pour Sonia et pour sa maman, Sylviane. C'est ton mari qui est pas loin. Il était pasteur à Chicago. Voilà, il est à Chicago, je crois, en ce moment. Voilà. Donc, pasteur à Chicago, là où est Charles en ce moment. Non. Et puis aussi à Toronto après. Bien, bah on va peut-être vous donner les initiales. C'est AWT. Yes. Very good. Tozer. C'est Aiden. Alors Aiden Wilson. Aiden, je ne sais pas ce que c'est en français. Aiden Wilson Tozer, T-O-Z-E-R. Vous avez beaucoup d'écrit de Tozer, des chants, des méditations, surtout la prière, l'adoration, Tozer. Voilà, alors j'ai pensé parler un peu de cet homme de Dieu qui est pasteur, mais surtout prophète. Et c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de Moïse, prophète, d'un prophète des temps modernes. Il était appelé le prophète du 20e siècle. Donc, c'est quand même bien de le connaître un petit peu. Et je vous dis, vous lisez beaucoup de Tozer. Hein. Il y a des manuels tout entiers de méditation de Tozer. Alors, la bibliographie de cet homme qui naquit le 21 avril en 1897... donc juste à la fin du 19e, dans une petite ferme bâtie parmi les sillons épineux de l'ouest de la Pennsylvanie. C'est qui est en Pennsylvanie? Les Amish. Vous savez, les gens qui sont très appuyé sur la parole, qui rejette toute la modernité, hein, les calèches et tout ça. Pendant une brève période de quelques années, Tozer, ainsi qu'il préférait qu'on l'appelât, acquit la réputation et le titre de prophète du XXe siècle. C'est bien d'écouter les prophètes. C'est quoi un prophète pour vous? Définition du prophète. Pasteur, vous savez. Évangéliste, vous savez. Prophète, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait un prophète? Oh, je vois que vous êtes... vous réfléchissez, là. Ouais. Pardon? Non, prophète. Ouais, qu'est-ce que c'est un prophète pour vous? Pardon? Oui, il annonce les oracles de Dieu. Vous êtes très sage, hein, parce que je m'attendais à ce que vous disiez qu'il prédit le futur. Non? C'est pas impossible, hein. Un prophète, quand même, il peut annoncer des choses qui vont arriver, hein. Mais c'est vrai que c'est pas le premier ministère. Le premier ministère du prophète, c'est quoi? C'est d'encourager, l'encouragement, hein. Un prophète, il l'encourage. Alors, il était appelé prophète du XXe siècle, capable d'exprimer ses pensées d'une manière simple, mais pleine de force. Tozer combinait la puissance de Dieu et la puissance des mots. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'écrit, hein, de sa part, pour nourrir les âmes affamées, percer le cœur des hommes et attirer les pensées charnelles vers Dieu. Tozer avait 15 ans quand sa famille va s'installer à Akron, dans l'Ohio. Donc, il était dans l'Ohio, enfin, à côté de Chicago. Hein. Non, Kansas. Mais l'Ohio, c'est juste au-dessus, je crois. Donc, ils sont installés dans l'Ohio. Et un après-midi, alors qu'il était sur le chemin de la maison après son travail, à Goodyear, il captura les paroles d'un prédicateur de rue qui disait « Si vous ne savez pas comment être sauvé, remettez-vous seulement à Dieu. » Arrivé à la maison, il monta les escaliers, pénétra dans le grenier, où, accordant toute son attention au conseil du prédicateur, il fut propulsé dans une poursuite de Dieu qui allait durer toute sa vie. Donc, c'est juste une parole. Vous voyez, comme quoi une parole peut faire beaucoup d'effet sur quelqu'un qui recherche Dieu. Il avait juste entendu cette parole dans la rue. En 1919, sans formation personnelle, Tozer fut appelé à prendre en charge une petite église située en face d'une boutique de la ville de Nutterforce, dans l'ouest de la Virginie, puisqu'il était en Pennsylvanie à ce moment-là. Et ce modeste début les poussa, lui et sa famille mariée, de fraîche date, dans 44 ans de ministère avec l'Alliance chrétienne missionnaire, l'AECM, si vous connaissez, dont 31 au sein de l'église Southside Alliance Church de Chicago. L'assemblée, captivée par la prédication de Tozer, crut de 80 à 800 personnes. En 1950, Tozer fut élu éditeur du journal Alliance Weekly, qui se nomme maintenant Alliance Life. La distribution du journal doubla presque immédiatement. Dans le premier éditorial, daté du 3 juin 1950, il donna le ton. Écoutez ce qu'il dit. Cela coûtera quelque chose de marcher lentement dans le cortège des âges, tandis que les hommes du temps se précipitent tout droit vers la confusion, entre le mouvement et le progrès. Mais cela paiera sur le long terme, et le véritable chrétien ne s'intéresse pas beaucoup à autre chose qu'à cela. Le point fort de Tozer était sa vie de prière, qui l'amenait souvent à marcher dans les allées d'un sanctuaire ou à se coucher à plat ventre sur le sol. Il écrivait « Un homme est tel qu'il prie ». Pour lui, adorer Dieu, vous voyez, on est dans l'année de l'adoration, ça tombe bien, adorer Dieu était la chose la plus capitale de sa vie et son ministère. Ses prédications ainsi que ses écrits furent que la prolongation de sa vie de prière, ne furent que la prolongation de sa vie de prière, selon James Snyder, un de ses biographes. Un autre biographe écrivait quelques années plus tôt, il passa plus de temps à genoux que dans son bureau. L'amour de Tozer pour les mots imprégna aussi sa vie de famille. Il jouait avec ses enfants à des concours. Alors vous pouvez jouer avec vos enfants et des concours, hein, si vous voulez imiter Tozer. Les interrogeant sur ce qu'ils lisaient. Et il leur racontait, avant leur sommeil, des histoires qu'il avait lui-même écrites. La chose dont je me souviens le plus à propos de mon père, partagé à sa fille Rebecca, sur un air de réflexion, ce sont les merveilleuses histoires qu'il nous racontait. Et vous, en tant que père, vous pouvez avoir une influence très importante sur vos enfants. Vous pouvez écrire des histoires ou raconter des histoires, ça marque un enfant. Tozer passa ses dernières années de ministère dans l'église à Toronto, au Canada. Le 12 mai 1963, sa poursuite de Dieu sur la terre s'acheva avec une attaque cardiaque alors qu'il avait 66 ans. Dans un petit cimetière de Akron dans l'Ohio, sa pierre tombale porte cette simple inscription « Homme de Dieu ». Certains se demandent pourquoi les écrits de Tozer sont aussi pleins de fraîcheur aujourd'hui que de son vivant. C'est parce que, comme le commenta un de ses amis, il laissa le superficiel, l'évident et le trivial à d'autres pour que ceux-ci s'amusent. Ses livres touchèrent le cœur en profondeur. Pendant presque 50 ans, Tozer marcha avec Dieu. Bien qu'il soit parti, il continue à parler, aidant et édifiant ceux qui désirent ardemment expérimenter Dieu. Comme quelqu'un l'a dit, cet homme suscite en nous l'envie de connaître et de sentir Dieu. Pas mal. C'est un homme de prière. Et les œuvres de Tozer, donc c'est un prophète du XXe siècle, c'est ainsi que l'on le surnommait même de son vivant. Pendant 31 années, il fut donc dans l'église de Chicago, où sa réputation d'homme de Dieu fit le tour de la ville. Dans le même temps, il devint éditeur de Alliance Life, responsabilité qu'il assuma jusqu'à la fin de sa vie, en 63. Son plus grand héritage pour le monde chrétien, ce sont ses 30 livres. Parce que Tozer vivait dans la présence de Dieu, il avait une vision claire. Il parla comme un prophète à l'Église. Il recherchait l'honneur de Dieu avec le zèle d'Élisée, et il se désolait avec Jérémie devant l'apostasie du peuple de Dieu. Donc déjà à l'époque, donc qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Mais il n'était pas un prophète de désespoir. Ses écrits sont des messages dignes d'intérêt. Ils exposent la faiblesse de l'Église et dénoncent les compromis. Ils avertissent et ils exhortent. Donc, la fonction de prophète, encouragement. Mais ce sont aussi des messages d'espérance, car Dieu est toujours présent, toujours fidèle, pour restaurer et accomplir sa parole envers ceux qui entendent et qui obéissent. Tozer laissa un vaste trésor de richesses spirituelles à lire, digérer et mettre en pratique. Ses écrits, et si vous avez des écrits, un peu, vous connaissez les écrits de Bob Gass, hein. Bon, bah, si vous lisez les écrits de Tozer, vous verrez qu'ils sont aussi frais qu'à l'époque où il les a écrits. Hein. C'est là qu'on voit qu'ils sont inspirés, hein, par le Saint-Esprit. Et dans ses écrits, il laissait aux autres le soin de discutailler des choses superficielles, évidentes et triviales, pour se consacrer à la discipline de l'étude et de la prière, qui donna lieu à des articles et des livres qui atteignent en profondeur le cœur des hommes. Juste un petit mot sur sa vie de prière, mais je ne vais pas tout vous lire. Je vais réserver ça pour dimanche prochain aussi. Mais juste un homme de prière pour vous montrer combien cet homme était consacré à Dieu. Durant une session d'affaires, lors d'une assemblée générale de l'Alliance chrétienne missionnaire, vous connaissez les assemblées générales, les délégués s'embourbèrent dans des motions et des amendements qui se succédèrent les unes aux autres. Une impatience grandissante gagnait Tozer qui éprouvait un sentiment de total ennui vis-à-vis de tout cela. Finalement, son esprit intrépide ne put plus en supporter davantage. Il se tourna vers Raymond McAfee, qui était assis à côté de lui. Il dit « Allons-y, McAfee », chuchota-t-il. « Montons dans ma chambre pour prier, avant que je ne perde toute ma religion. » Toute l'éloge qui lui revenait en tant que prédicateur, plein d'éloquence et écrivain, remarquable, peut être attribuée avec entière certitude à sa relation intime avec Dieu. Tozer préférait la présence de Dieu à tout autre. Le fondement de sa vie chrétienne était la prière. Non seulement il prêchait la prière, mais il la pratiquait. Il portait toujours avec lui un petit carnet dans lequel il inscrivait des requêtes pour lui-même et pour les autres, généralement de nature spirituelle. Les prières de Tozer portaient les mêmes marques que sa prédication, c'est-à-dire honnêteté, franchise, humour, intensité. Ces prières affectaient profondément sa prédication, car sa prédication n'était qu'une déclaration de ce qu'il découvrait dans la prière. Ces prières affectaient aussi toute sa façon de vivre. Il disait souvent « Un homme est comme sa vie de prière ». Et moi, je rajouterais, tordre sa pensée, une église est comme sa vie de prière. On le lit souvent. Hein, si vous voulez voir une église, vous allez en semaine dans la vie de prière. Vous regardez et vous connaissez l'église. Enfin, vous connaissez la nature spirituelle de l'église. Et on est très heureux, en tout cas depuis une dizaine d'années, de la vie de prière de cette église. Même si on n'est pas très nombreux, on sait que tous vous faites des efforts pour venir à cette vie de prière. Bon, certains sont plus loin, hein, je ne vous implique pas dans cela. Mais je veux dire, on est vraiment édifiés. Et il faut vraiment garder ce thermostat. Hein, ou le thermomètre, enfin le thermomètre il indique, hein, le thermostat il régule, hein, je préfère le thermostat, parce que si ça baisse, hop, le thermostat redonne un coup d'énergie, notamment la boucle de régulation pour que ça reparte. Donc il faut toujours qu'on reste à un certain niveau. Hein, c'est pas simplement de constater que ça baisse, il faut aussi repartir pour garder le niveau de la prière. Et ça c'est très très important, parce qu'une église est comme sa vie de prière. Tout ce qu'il faisait découlait de sa vie de prière. Il passait la majeure partie de son temps quotidien à lutter avec Dieu dans la prière. Tozer pratiquait littéralement la présence de Dieu. Souvent, il se retirait loin de sa famille et de ses amis pour passer du temps seul avec Dieu. Ce n'était pas inhabituel qu'il perdût toute notion de temps dans ses rencontres avec Dieu. McAfee rencontrait régulièrement Tozer dans son bureau chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi matin pour une demi-heure de prière. Souvent, lorsque McAfee entrait, Tozer lisait à haute voix quelque chose qu'il venait de lire récemment. Cela pouvait provenir de la Bible, d'un recueil d'hymnes, d'un pieux écrivain, d'un livre de poésie. Ensuite, il s'agenouillait près de sa chaise et commençait à prier. Certaines fois, il priait le visage levé vers le ciel. D'autres fois, il priait totalement prostré sur le sol avec un morceau de papier sous son visage pour l'empêcher de respirer la poussière du tapis. Voilà, je vous donne un aperçu de cet homme de Dieu. Et je voudrais juste vous donner un extrait d'une de ses prédications qu'il a données, je ne sais pas en quelle année, à Chicago, sur la vieille croix, pour vous donner un aperçu que parfois on se fait des idées sur des prédications qui doivent avoir une certaine teneur, enfin je ne sais pas, tout un tas de choses que vous entendez quand les gens sortent d'un culte, et c'était pas ceci, c'était pas cela. Donc, je vous donne juste un aperçu de la prédication de Tozer sur la vieille croix qu'il a donnée donc à Chicago. Sans avertir et presque inaperçu, une nouvelle croix s'est introduite dans les milieux évangéliques populaires de notre époque. Donc c'est il y a 80 ans que c'était donné ce message. Elle ressemble à l'ancienne, mais elle est différente. Les similitudes sont superficielles et les différences fondamentales. De cette nouvelle croix a germé une nouvelle philosophie de la vie chrétienne et de cette philosophie, une nouvelle technique évangélique. Un nouveau style de réunion et un nouveau genre de prédication. Cette nouvelle évangélisation emploie le même langage que l'ancienne, mais son contenu n'est pas le même et sa puissance n'est plus comme auparavant. La vieille croix n'avait aucun rapport avec le monde. Pour la chair orgueilleuse d'Adam, elle signifiait la mort. Elle mettait à exécution la sentence imposée par la loi du Sinaï. La nouvelle croix, elle, n'est pas opposée à la race humaine. Elle en est, au contraire, une partenaire amicale. Et, si je comprends bien, elle alimente un flot d'amusement légitime et bon et d'innocente réjouissance. Elle laisse Adam vivre sans entrave, avec une motivation inchangée. Il peut continuer à vivre pour son plaisir et maintenant, au lieu de se réjouir à chanter des chansons douteuses en buvant des boissons fortes, il se réjouit à chanter des cantiques et à regarder des films religieux. L'accent reste toujours sur la jouissance qui se tient dans un plan plus élevé. la nouvelle croix encourage dans l'évangélisation. Elle encourage dans une approche toute nouvelle et entièrement différente. L'évangéliste ne réclame plus le renoncement à l'ancienne vie pour que la vie nouvelle puisse s'installer. Il ne prêche pas des contrastes, mais des similitudes. Il prêche à se mettre au diapason de l'intérêt général en montrant que le christianisme n'a pas d'exigence désagréable, mais au contraire. Il offre tout ce que le monde offre, mais à un niveau supérieur. Tout ce après quoi le monde, corrompu par le péché, aspire de nos jours, est très habilement présenté comme étant justement ce qu'apporte l'Évangile, le produit religieux étant bien entendu meilleur. La nouvelle croix ne met pas le pécheur à mort, elle le réoriente. Elle le renvoie dans une autre direction, dans un monde, un mode de vie plus sain, plus heureux, tout en sauvegardant son amour-propre. À celui qui est autoritaire, elle dit « Viens et affirme-toi pour le Christ ». À celui qui est imbu de lui-même, elle dit « Viens et glorifie-toi dans le Seigneur ». À celui qui est avide d'émotion, elle dit « Viens et repais-toi de communion fraternelle ». Le message de l'Évangile est dévié, biaisé, dans le sens courant en vogue pour être accepté du public. La philosophie qui se tient derrière est sans doute sincère, mais sa sincérité ne l'empêche pas d'être fausse. Elle est fausse parce qu'elle est aveugle. Elle passe complètement à côté de la signification fondamentale de la croix. La vieille croix. Donc, Tozer, maintenant, il parle de la vieille croix. Elle est un symbole de mort. Elle représente la fin soudaine et brutale d'une vie humaine. Du temps des Romains, celui qui se chargeait de sa croix et qui s'engageait sur le sentier de la mort avait déjà dit adieu à ses amis. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Il partait pour toujours. La croix ne faisait aucun compromis. Elle ne modifiait rien, elle n'améliorait rien, elle n'épargnait rien. Elle immolait tout en l'homme, complètement et définitivement. Elle n'essayait pas de rester en bon terme avec sa victime. Elle frappait dur et cruellement, et quand elle avait achevé son œuvre, elle ne restait rien de l'homme. Il n'existait plus. La race d'Adam est sous la sentence de mort. Il ne peut y avoir aucune commutation de peine, aucun échappatoire. Dieu ne peut approuver aucun des fruits du péché, aussi innocent ou agréable qu'il puisse paraître aux yeux des hommes. Dieu doit mettre l'homme à sac et le liquider totalement afin de pouvoir le relever en nouveauté de vie. Radical, hein ? Cette prédication d'évangélisation qui établit des parallèles conciliants entre les voies de Dieu et celles des hommes est traîtresse envers la Bible. Est cruelle pour l'âme des auditeurs. La foi en Christ ne marche pas en parallèle avec le monde. Au contraire, elle s'en coupe. En venant à Christ, nous ne haussons pas notre vieille nature à un niveau supérieur. Nous l'abandonnons à la croix. Le grain de blé doit tomber dans le sol et mourir. Nous qui prêchons l'Évangile, nous ne devons pas nous considérer comme des agents de relations publiques, envoyé pour établir de bons rapports entre le Christ et le monde. Nous ne devons pas nous imaginer chargés de mission pour rendre Christ acceptable auprès du grand commerce, de la presse, du monde du sport ou de l'enseignement moderne. Nous ne sommes pas des diplomates, mais des prophètes. Et notre message n'est pas un compromis, mais un ultimatum. Dieu offre la vie, mais pas la vie ancienne améliorée. La vie qu'il offre est une vie qui renaît de la mort. Elle se tient toujours à côté de la croix. Celui qui veut la posséder doit passer sous la toise. Il doit renoncer à lui-même et approuver la juste sentence de Dieu envers lui. Qu'est-ce que cela signifie pour celui qui se trouve face à Jésus-Christ? Comment cette théologie se traduit-elle en vie? Il doit simplement se repentir et croire. Il doit renoncer à ses péchés et aller plus loin en renonçant à lui-même. qui ne cache rien, n'excuse rien, ne justifie rien, qui n'essaye pas d'argumenter avec Dieu, mais qui courbe la tête sous le choc de l'austère des plaisirs de Dieu et se reconnaisse lui-même digne de mort. Après cela, qui porte le regard avec une foi simple sur le Sauveur ressuscité, de qui descendra la vie, la nouvelle naissance, la purification, la puissance, la croix qui a mis fin à la vie terrestre de Jésus, mettra aussi fin à celle du pécheur. Et la puissance qui a relevé Christ d'entre les morts ramènera le pécheur à une vie nouvelle avec Christ. À celui qui voudrait objecter à ceci, ou y avoir une conception étriquée et personnelle de la vérité, je dirais que Dieu a mis le sceau de son approbation sur ce message, depuis le temps de Paul jusqu'à nos jours. Que les termes aient été exactement les mêmes ou non, tel fut au long des siècles le contenu de la prédication qui a communiqué la vie et la puissance dans le monde. C'est là-dessus que les hommes de Dieu du passé, les réformateurs, les revivalistes ont mis l'accent. Et des signes et des merveilles et des opérations puissantes de l'Esprit-Saint ont témoigné de l'approbation de Dieu sur leur message. Oserions-nous, en tant qu'héritiers légaux d'une telle puissance, falsifier la vérité? Oserions-nous, de la pointe émoussée de nos crayons, retoucher le tracé du plan de l'architecte, ou altérer le modèle révélé pour nous sur le mont du calvaire? Dieu nous en garde. Prêchons la vieille croix et nous connaîtrons la vieille puissance. Amen. Amen. Vous auriez été content d'écouter un message comme ça? Il faut suivre, hein? Pardon? Oui, oui, non mais... Je veux dire, c'est agréable. Vous voyez, ça heurte, bien sûr, notre conception de la vie chrétienne, où on cherche toujours des compromis, hein, avec notre vieille nature, avec ce que le monde propose. Or, Dieu veut qu'il y ait un radical changement. Et justement, lui, il pouvait le dire parce qu'il était à genoux dans la prière. Il y a des choses que je vous lirai. Vous verrez à quel point la puissance de Dieu était là dans la prière. Il priait Dieu pour les âmes, il priait Dieu. Et son objectif, c'était l'avancement du royaume de Dieu. Mais cet avancement ne vient que lorsqu'on est déterminé à mettre à mort la vieille nature qui est en nous, qui, par toutes les racines, remonte. Et qui transforme le message de l'Évangile en le bonifiant. Disant, mais c'est bien. Et après, vous voyez, moi j'aime bien un livre qui est écrit d'ailleurs par un inconverti, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'imprégnation chrétienne, hein, dans ceux qui écrivent. Scott Peck qui a écrit Les gens du mensonge. C'est un petit livre de poche que j'aime beaucoup. Et c'est un des seuls qui a vraiment cherché à savoir qui étaient les gens mauvais. Vous vous êtes déjà posé la question, quels sont les gens qui sont mauvais? Et vous ne pouvez pas toujours attribuer à quelqu'un de mauvais, il n'est pas vraiment mauvais, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il vous fait des choses, des crasses, des choses comme ça, etc. Bon, les gens mauvais. Bah lui, il a une définition très simple. Les gens mauvais sont les gens du mensonge. Il appelle ça les gens du mensonge, son petit livre. C'est très intéressant. Parce que le mensonge, c'est d'ailleurs une des capacités que l'homme a, que l'animal n'a pas. L'animal ne peut pas mentir. Vous avez déjà remarqué ? L'animal, il vit sur l'immédiat. Il a un sentiment, il l'exprime. Il n'est pas content, notre chien, quand il n'est pas content, il mord son frère, bon, on est obligé de l'arrêter, enfin, il mord, il grogne dessus, enfin, il exprime son émotion. Voilà, tout ce qui vient. L'homme, il a la capacité de mentir. Enfin, il a bien d'autres capacités, hein. Je mets juste en évidence l'aspect négatif. Je ne parle pas de toutes les belles choses que l'homme a. Mais une des capacités, c'est le mensonge ou le déni. Voyez, de dire non, je n'ai pas fait ça, alors qu'en fait, on le fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres aussi. Dans une église, une des fonctions de l'église, c'est de nous renvoyer l'image de ce qu'on est. Et on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si on l'accepte, bien sûr, dans l'amour, on n'est pas obligé de se dire des choses brutalement. Mais quand on accepte le regard des autres, eh bien, on peut être dans la vérité. Et c'est la fonction du prophète, de dire la vérité. Mais cette vérité n'est pas toujours acceptée parce que nous sommes dans le déni. Ah non, on n'est pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ouais, je ne suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas comme ça? On veut garder son image, on veut garder ceci, on veut garder cela, etc. Et ça, c'est le gros problème de l'être humain et du chrétien en général. Mais si nous acceptons, c'est une des fonctions de la repentance et de la sanctification, c'est d'accepter tel que nous sommes. Et si quelqu'un me le dit, même si c'est un inconverti, Dieu, vous croyez que Dieu peut parler aux travers des inconvertis ? Il peut même parler au travers des ânes, au travers de n'importe qui. Donc ne cherchez pas uniquement des chrétiens. D'ailleurs, vous seriez peut-être déçus de certains chrétiens qui vous disent des choses, vous les montez en épingle. Bon, c'est pas parce qu'ils sont utilisés par Dieu, mais Dieu peut vous parler. Vous sortez d'ici, Dieu peut vous parler par quelqu'un qui passe dans la rue. Il vous dit quelque chose. Ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? C'est ça la question. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit par rapport à moi ? Si c'est vrai, ben, je corrige. Point. Je discute pas. À partir du moment où je discute, je suis déjà sur la mauvaise pente, je commence à mentir. Prenez cette habitude toute simple, dire « Seigneur, il m'a dit ça, ben, je le mets devant toi. Si c'est pas vrai, eh bien, tu permettras que ça passe, j'en veux pas. Bon. Mais si c'est vrai, aide-moi à le corriger. » Alors, vous gagnerez beaucoup de temps dans votre vie chrétienne, parce que tant que vous ne faites pas ça, vous allez tourner, comme le dit Joyce Meyer, dans votre désert. C'est-à-dire, comme Dieu veut vous corriger, mais qu'il n'y arrive pas, puisque vous êtes dans le déni, vous dites « non, c'est pas vrai », enfin, vous dites, c'est inconscient, hein. Très souvent, vous ne le dites pas. Mais étant donné que vous n'êtes pas dans la clarté, la transparence, la vérité, eh bien, vous vous mentez à vous-même. Au lieu de dire « Seigneur, oui, tu viens de me dire ça, est-ce que c'est vrai ?» Si c'est pas vrai, ok, j'oublie, puisque je sais que ces choses-là, je les ai corrigées, je les ai amenées à la croix, je les ai corrigées, et je sais que tous les retours qui me sont faits ne sont pas ça. Donc, bon, vous voyez, parce que l'ennemi aussi, il veut nous décourager. Hein. Bon, il y a tout ça. Mais si c'est vrai, Seigneur, aide-moi à corriger ça. Et là, vous êtes dans le chemin du progrès, dans le chemin de la transformation que le Seigneur veut faire dans votre vie, et enlever la vieille nature et la mettre la nouvelle nature. Vous me suivez ? Allô ? Donc c'est une pratique, je dirais, simplement adoptée. C'est une technique, entre guillemets, spirituelle. Une technique simplement d'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Dire, Seigneur, eh bien, ok, tu me parles d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un, par une personne, par... nous, pendant une période, quand on était en difficulté, on n'avait pas vraiment de serviteur spirituel, attitré, on pouvait se confier. Bah, il nous a parlé par la télévision, enfin au niveau des émissions de télévision, God Channel chrétienne. Et on a corrigé beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a réformé. Vous savez, on doit avoir l'esprit des réformateurs qui appelaient la réforme semper reformanda. Ça veut dire la réformation continuelle, permanente. Hein. Malheureusement, les réformés ont perdu cette habitude. Hein. Bon, ils ont toujours le motto, hein, mais vous savez, c'est pas parce que vous avez un motto sur une église que vous le pratiquez. Mais il faut pratiquer la réformation constante de nos vies, parce que le péché est tout le temps à notre porte. Et Dieu a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Et comment est-ce qu'on domine sur le péché? Hello? Est-ce qu'on domine par nos forces? Par la repentance. Dominer sur le péché, c'est dire, Seigneur, je te confesse ce péché, je te confesse ça et ça qui ne va pas, tu m'as parlé, je te le remets, Seigneur, change-moi. Et là, vous avez une attitude d'humilité permanente. Et l'attitude d'humilité permanente vous donnera la puissance de Dieu. Voyez-vous, on cherche la puissance. Mais la puissance, elle est là. La vieille croix amène la puissance. Parce que dans la vieille croix, la croix de Jésus, se trouve la puissance. Voyez-vous, Jésus, il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? La vie a germé. La vie est sortie du tombeau. La vie est sortie de la terre et Jésus est monté. Et ça, c'est le secret de la vie chrétienne. C'est dire, Seigneur, je veux mourir, j'accepte de mourir. Tous les jours, Seigneur, tu me parles, j'accepte que ces choses-là, eh bien, je te les remets. Et si j'y arrive pas, continue à m'aider. Voyez-vous, c'est cette persévérance dans le changement Et c'est alors que nous pourrons vraiment expérimenter la puissance de Dieu. Et je vous donnerai notre témoignage de Tozer qui montre la puissance de Dieu sur cet homme. Mais nous devons garder la vieille croix. Et très souvent, eh bien, dans les églises aujourd'hui en particulier, eh bien, comme à son époque, dans toutes les époques, ces prophètes eh bien, se sont bagarrés avec ce compromis où on adapte le message de l'Évangile pour quand même pas être trop dur. Vous voyez, moi j'ai parlé avec un pasteur dans le Montois, je ne dirais pas qui c'est, il est parti maintenant. Par hasard, j'ai pu visiter une de ses oies, et bon, je ne l'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Puis j'en ai fait un rapport, elle était un petit peu rouge, mais je dis oui, mais on ne peut pas laisser ces choses comme ça quand même. Si vous savez comment ils vivent, il faut exercer la discipline. Mais ça ne l'intéressait pas parce qu'il voulait remplir son église. Alors, si on veut remplir son église, eh bien, on ne dit pas des choses qui fâchent. Mais Jésus disait des choses qui fâchent. Enfin, qui fâchent. Ça ne fâche jamais quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble, qui reçoit un message en disant ça et ça, ça ne va pas dans ta vie, eh bien, il dit merci Seigneur. Allô ? Vous l'êtes de ceux-là qui disent merci Seigneur pour des choses que Dieu veut corriger dans votre vie et qui met le doigt dessus ? Eh bien, il faut dire merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que Dieu me donne une occasion nouvelle d'enterrer ma vie adamique et de recevoir la vie de Christ. Amen. Je vous invite à prier et à avoir cette attitude que la parole de Dieu nous invite à avoir. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai que ta croix, elle est toujours actuelle. Mais nous avons une telle facilité déconcertante à, Seigneur, l'adapter, à essayer de la faire coller avec notre monde actuel, notre vie actuelle, notre manière de vivre, ou de voir, ou de raisonner. Et en te demandant pardon pour cela, et te demandant pardon pour le corps de Christ en général, qui se laisse dévier par cela. Seigneur, nous voulons en effet la puissance de ta croix. Mais Seigneur, elle passe par la mort. Et toi-même, tu as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il me suive, et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Seigneur, la croix est un instrument de mort. Et c'est vrai que de la mort germe la vie, comme le grain de blé qui est mis en terre. Seigneur, nous te demandons ta grâce, afin que nous puissions toujours être dans cette humilité qui est la source de la vie et de la puissance. Seigneur, donne-nous de demeurer dans cette humilité pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire et pour notre changement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.